Cube Radio. Alexandre Morinville-Ouellet.
Cube Radio.
Incorruptible défenseur de la vérité. Il combat la désinformation, un argument à la fois. Journaliste dévoué, il n'est jamais à court d'arguments. Son pouvoir de persuasion brave tous les sujets de l'actualité. Alexandre Morinville-Ouellet.
Bonjour et bienvenue à Cube Radio. Grosse journée encore. Je sais pas pour vous, mais il y a des nouvelles qui reviennent dans l'actualité de manière cyclique, constante, qui me font... Tu sais, c'est plate, là, mais à chaque fois que je suis devant une de ces nouvelles-là, je me dis « Ah! Encore! Hein? Un autre! Ça recommence! » Mais il y a deux de ces nouvelles-là duquel on va parler aujourd'hui à l'émission. Ces nouvelles cycliques qui reviennent, plus ça change, plus c'est pareil, mais ça vient quand même ébranler la confiance des Québécois en certaines institutions. La première étant celle du système de la santé. On apprend ce matin, selon un recensement du journal, que les coûts pour rénover ou construire des hôpitaux explosent au Québec. Les factures grimpent pas de 10, 20, 30 $, mais des centaines de millions de dollars. C'est une nouvelle qui fait « Ah! » Encore des dépassements de coûts et des retards dans la construction d'hôpitaux. Encore. C'est en 2022. Il me semble qu'on a eu un rapport similaire en 2021, 2020, 2019, 2018, etc., etc., etc. Chaque fois qu'on reparle du système de santé, ben, il y a des dépassements de coûts, il y a des travaux qui sont trop longs, puis ça, on pourrait l'étendre à peu près tous les chantiers qu'on fait au Québec. C'est des nouvelles un peu déprimantes, désespérantes, puis il n'y a personne qui sait vraiment comment on peut s'en sortir. Alors, je fais « Oh, encore? » C'est pas une surprise. Mais ça fesse, puis ça vient pincer et à la fois envers nos institutions de construction et à la fois envers nos institutions de santé. L'autre nouvelle qui est tombée hier, qui fait l'effet d'une bombe à cause d'un nom qui s'y retrouve. Mais la chose elle-même n'est pas surprenante. Je parle de la confiance en nos institutions religieuses. Et hier, une autre action collective qui est lancée, cette fois-ci qui vise le diocèse de Québec contre des religieux, du personnel religieux, des gens en fonction du clergé qui auraient fait des agressions sexuelles. 88 prêtres, personnes du diocèse, 101 victimes cette fois-ci. Encore une fois, c'est le cabinet Arsenault Dufresne, oui, avocat, qui pilote cette action collective et Maître Alain Arsenault est avec moi. Bonjour, Maître Arsenault.
Oui, bonjour.
Là, tout d'abord, vous êtes là à chaque fois que dans les derniers temps qu'il y a de ces actions collectives-là, votre nom revient, vous n'en êtes pas à votre premier rodéo, là, votre cabinet pilote aussi l'action collective qui cible entre autres les frères des écoles chrétiennes du Canada. À force d'en voir des victimes, d'en écouter, de recevoir des plaintes, est-ce que vous pensez que l'Église catholique commence à être de plus en plus ébranlée ici au Québec?
Si elle est ébranlée, elle ne le démontre pas beaucoup. Hein? Ils ne font pas de commentaires. Les médias ont tenté d'avoir un commentaire hier. Pas de commentaires. Quand on leur demande une position globale, on n'a pas de commentaires. Ce n'est que pas de commentaires. Puis lorsqu'ils sont pris à la toute fin du processus de faire des chèques, pas de commentaires. Ébranlé peut-être, mais ça ne paraît pas beaucoup.
Quand vous avez vu pour la première fois que dans cette action collective-là que vous alliez piloter, il y avait le nom du cardinal Marc Ouellet, est-ce que vous avez fait le saut?
Pas vraiment.
Non?
C'est sûr que lorsqu'on voit un nom aussi prestigieux que cela, on se dit « Oups! » Mais ça touche tellement de près. Et c'est des gens de pouvoir, il ne faut pas l'oublier. C'est des gens de pouvoir. Alors, la caractéristique première des gens de pouvoir est trop souvent d'abuser de leur pouvoir. Parce qu'une agression sexuelle comme F a subi, c'est une agression sexuelle qui fait partie d'un abus de pouvoir. Donc, il n'y a pas beaucoup de surprises.
pas beaucoup de surprises. Tout de même, vous le dites, c'est un nom qui est prestigieux. Vous avez nommé F, qui est le nom qu'on donne à la victime alléguée dans cette poursuite. Quand, par contre, comme vous le dites, c'est un nom prestigieux, le cardinal Ouellet. Est-ce que la démarche que vous entreprenez est différente lorsqu'on cible quelqu'un d'aussi haut placé dans l'Église ou c'est, en bon français, business as usual, vous procédez de la même manière?
On procède de la même manière, avec beaucoup d'attention pour chacun des dossiers, dont celui-là. On fait des vérifications, on va chercher des informations complémentaires, on fait signer des affidavits. Tout ça est fait là, correctement pour toutes les victimes, dont F, évidemment.
Oui, la plaignante F... dont on parle depuis tout à l'heure, elle a déjà fait parvenir en janvier 2021 une lettre au pape François, au Vatican. Elle évoquait les gestes du cardinal, entre autres. Il y a une enquête qui a été déclenchée un mois plus tard sur ces allégations-là. Est-ce qu'il y a eu suite à cette enquête du Vatican à l'interne?
Absolument pas. Depuis mars ou avril 2021, aucune réaction. Aucune réaction.
La plaignante,
pas de nouvelles. Et ma cliente a tenté d'avoir une réponse. Qu'est-ce qui arrive? C'est quoi la conclusion? Aucune réponse.
Est-ce que ça arrive souvent,
ça? Le respect des victimes, on se demande où il est.
Est-ce que ça arrive souvent, ça, Maître Arsenault, qu'il y a des enquêtes internes de l'Église puis qu'il n'y a jamais de nouvelles par la suite, ça tombe aux oubliettes?
Je vous dirais que c'est la norme. Souvent, ils déplacent les prêtres. Souvent, on ne sait pas. Régulièrement, il n'y a pas de réponse. Il y arrive parfois qu'il y a des réponses, tant mieux, mais c'est pas la norme. Absolument pas.
Ces enquêtes-là, on comprend que c'est un modus operandi qui se faisait beaucoup là dans les années 50, 60, 70, même, de déplacer comme ça des prêtres à l'interne de l'Église pour empêcher qu'ils soient ciblés justement par trop d'allégations à un endroit en même temps. Là, ce que vous me dites, ce que je comprends, là, c'est que ça, c'est pas un schéma qui est terminé. Même les enquêtes à l'interne, c'est encore, vous le dites, la norme, ça a pas... On pense que ça a changé, mais ça a pas vraiment changé dans les faits, Maître Arsenault.
Effectivement. On voit à un certain moment donné des petites choses qui font « Oups, il y a un petit quelque chose. » Mais c'est relativement rare à comparer à l'ensemble. On voit qu'il y a des gens qui voudraient bien à l'intérieur que les choses changent, mais la pression de la haute hiérarchie fait en sorte que c'est assez rare que ça bouge.
Est-ce que vous avez des échos lorsque vous faites des actions collectives comme celle-là? Vous dites, c'est sûr, vous l'avez dit, là, dans les médias, l'Église n'a pas tendance à réagir, là, que ce soit les diocèses, que ce soit les clergés du Québécois, canadiens, voire le Vatican, ça réagit pas très, très fort. Mais vous, lorsque vous êtes hors des médias, est-ce que vous avez des échos de l'Église? Est-ce qu'il y a des prêtres? Est-ce qu'il y a des membres du clergé qui vous reviennent puis qui sont repentants, qui ont l'air d'exprimer des remords par rapport à un malaise par rapport à tout ce qui se passe?
Non, absolument pas. On voit parfois quelqu'un qui nous envoie un petit mot anonyme, qu'on comprend qu'il est prêtre, qui nous encourage à continuer, mais c'est rare. C'est relativement... C'est pas un nom, c'est très rare. Je vous dirais, depuis qu'on fait des actions collectives contre des organisations religieuses, ça nous est arrivé peut-être une ou deux fois, puis on a environ 1500 victimes dans nos dossiers. Fait que c'est rare, mais ça arrive.
L'état d'esprit des victimes, des plaignants dans tout ça, d'une fois à l'autre, peut-être dans le cas de cette action collective-ci qui nous intéresse, quel est leur état d'esprit? Est-ce qu'ils sont optimistes d'obtenir compensation? Est-ce qu'ils sont cyniques par rapport à la situation actuelle? Ça ressemble à quoi?
Non, ils sont assez optimistes. Optimistes pour, je dirais, une raison principale. Ils ont dénoncé, via une action collective, ils ont dénoncé. Ils l'ont dit à des avocats inconnus au départ. Ça, c'est le début du processus de guérison, la dénonciation. D'être capable d'en parler beaucoup plus librement à des membres de leur famille. J'ai dénoncé. Ce que je traînais depuis 30, 40, 50 ans, j'ai dénoncé. Puis ça permet aussi à l'entourage de dire « Ah, maintenant je comprends ». pourquoi telle chose, pourquoi telle chose. Ils peuvent en discuter. Ça, c'est le début de la guérison. Ben, c'est un processus qui ne se fait pas en 5 minutes.
Mmh.
Ça peut prendre des années. Comme une action collective prend des années. Et à la fin, lorsque l'action collective est terminée, là, ils se disent, ils réalisent tout ça, puis ils disent, maintenant, on me reconnaît. Maintenant, on m'indemnise. Je peux finir ma guérison. Et c'est ça qui est important. Certains pourront jamais guérir, mais d'embarquer dans un processus, c'est libérateur.
Mmh. Est-ce que vous avez déjà une cible de compensation que vous voulez aller chercher avec cette action collective-ci?
On cherche une compensation comparable à ce qui se passe dans d'autres cas. Quelque chose qui est tout à fait correct. Puis ça va faire partie des négociations qui devraient s'enclencher en septembre prochain.
On a entendu un peu plus tôt là, cette semaine, là, on entendait justement, ça tombe drôle de coïncidence si on veut, on entendait parler des églises catholiques au Québec qui n'auraient pas d'argent pour payer des indemnisations comme ça, qui se disent pris à la gorge, qui disent que c'est trop de régler toutes ces poursuites-là en même temps. Croyez-vous à ça, vous, que les coffres de l'Église sont à ce point drainés qu'ils ne peuvent pas indemniser les gens?
Absolument pas. Et s'ils oublient où sont leurs placements, je peux les aider à les retracer. Avant d'entreprendre une action collective, il faut être responsable. Il faut savoir s'il y a des chances raisonnables de succès sur le fond et sur les indemnisations. Si on a une congrégation religieuse et qu'on sait qu'ils n'ont absolument rien, on ne va pas dire aux gens, on va partir, puis vous n'allez rien avoir. On va avoir créé de faux espoirs. Fait qu'avant d'enclencher une action collective, on s'enseigne sur les finances. Et dans le cas de Québec, vous faites référence à un prêtre, un représentant de diocèse qui a fait des affirmations gratuites, c'est le moins qu'on puisse dire. Si c'est nécessaire, on va les aider. On va leur dire, c'est à tel endroit. Vous avez à tel endroit 76 millions.
Vous savez, parce que vous avez analysé tout ça, là, vous le savez qu'ils ont des placements, qu'il y a de l'argent qui est placé, des actifs, j'imagine, un peu partout. Tout ça, vous l'avez recensé, puis vous dites c'est gratuit, là, ce que lui disait plutôt cette semaine. C'est ce que je résume?
Oui, c'est un show de boucan préliminaire à une négociation. Ils pensent qu'on va dire ah, ben, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Bon, non. L'argent, ils en ont en masse. C'est pas un problème. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on veut 76 millions demain matin. Ça va dépendre du nombre de victimes qui vont s'inscrire, d'où l'importance de s'inscrire. Un règlement pour 100 personnes, c'est une chose. Évidemment, un règlement de 200 personnes ou 300 ou 400 personnes, ben, c'est plus important. Mais à un moment donné, l'action collective fait en sorte qu'à la fin du processus, il y a une clôture et il y a une quittance générale à la fin du processus. Si quelqu'un veut s'inscrire après, il va être trop tard. Il ne pourra pas s'inscrire à l'action collective et il ne pourra pas faire une action personnelle.
Les gens ont jusqu'à quand pour s'inscrire, Maître Arsenault?
Ben, elle n'est pas encore déterminée, mais il y a des avis qui vont avoir lieu avec des délais précis. D'après moi, ça ne sera pas avant 2023, mais d'où le message qu'on fait dans ce genre de dossier-là. Inscrivez-vous rapidement parce que si c'est trop tard, vous allez perdre des recours, vous allez perdre des droits. Fait qu'inscrivez-vous rapidement. Dans le dossier de Québec et dans tous les autres dossiers, Trois-Rivières, Amos, les Oblats, les Frères des écoles chrétiennes, l'Instruction chrétienne, inscrivez-vous, c'est important pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez recevoir une indemnisation.
Et que justice soit du même coup en partie rendu. Je résume, hein, Maître Arsenault, aux gens, votre message, inscrivez-vous, n'ayez pas peur, puis l'Église a en masse assez d'argent pour venir vous indemniser. Maître Alain Arsenault, avocat au cabinet Arsenault Dufresne, oui, avocat, merci beaucoup d'avoir été des nôtres.
Merci, au revoir.
Informé, cultivé, rigoureux, il n'est jamais à court d'arguments. Savoir et comprendre. Alexandre Morin-Villouellet.
L'espoir. L'espoir.
Mathieu Boulay, qui est... Es-tu toujours en direct de Toronto, Mathieu Boulay? Oui, parce que ceux qui te suivent sur les réseaux sociaux ont pu voir que t'es arrivé une petite mésaventure. Mathieu, raconte-nous donc ça.
Ben c'est simple. À notre arrivée à l'hôtel lundi, on avait un genre de transpondeur, si tu veux, pour entrer dans le stationnement. Et là, la barrière en avant de la grosse porte industrielle qu'on parle dans notre petit Facebook a ouvert. Donc, je pensais que si j'avais le feu vert pour rentrer dans le stationnement, puis que je devais taper ailleurs dans le stationnement. Fait que là, j'ai rentré un petit peu, puis j'avais peur que mon toolé, là, mon coffre supérieur, puisse pas rentrer avec mon camion. Moi, j'ai un Pathfinder, donc il est assez élevé, et j'ai eu peur que le Pathfinder rentre pas avec le toolé. Fait que là, j'ai arrêté un petit peu, 30 secondes, juste pour vérifier, voir si la hauteur était bonne. Et là, la porte a refermé, était ouverte, la grande porte était ouverte, et elle a refermé sur mon véhicule. Mais là, le pire qui s'est arrivé, c'est qu'il y a un résident de la bâtisse où on demeure, dans un bloc à condo. Ben, il a voulu sortir. Fait que la porte industrielle a réouverte. Et là, le rouleau a accroché en dessous de notre camion. Il a levé de terre notre camion.
Wow! Okay.
Et là, on ne savait pas. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ça a complètement arraché le hood, le couvert, le couvercle là, sur le dessus du moteur, ça a arraché le radiateur a reculé d'à peu près 5 pouces. Le support à radiateur est brisé. L'apport d'air également au moteur est brisé, mais pas brisé moitié. Là, c'est vraiment brisé. Faudrait que je vous montre des images, mais on peut pas faire ça à la radio. Là. Mais les dommages sont considérables. Au point que là, j'ai fait venir une remorqueuse par mes assurances du Québec, que là, ils vont venir chercher mon camion ce matin. Et là, on se remonte pas de camion avec une famille de 5 personnes. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça fait partie des joies du voyage. Et là, on a trouvé un plan B, comme on va dire. Là, on a loué 2 nuits de plus dans un hôtel juste à côté ici. On va revenir en train samedi parce que, oublie pas, Alex, c'est que aussi dans le contexte actuel des vacances, il n'y avait aucun véhicule roulant disponible avant lundi. Là, on a dit à ma blonde et moi, on se dit, ben là, comment qu'on va venir à Montréal? On n'a pas de char, on n'a plus de char. Là. Fait que, bon, on va venir en train avec les enfants. Les enfants sont emballés de ça. Les enfants sont emballés par le voyage parce que les autres, c'est des péripéties, des aventures à raconter avec leurs enfants, avec leurs amis.
Ouais, c'est pas eux qui payent les réparations sur le camion, je pense. C'est peut-être pour ça qu'ils trouvent ça un peu plus drôle que toi, Mathieu.
Mais nos assurances ont fait un travail remarquable. Ils ont été très rapides, mais évidemment, quand t'es en vacances, il faut que tu parles de puis il faut ramener le camion à Montréal, il faut le réparer à telle place. T'sais, c'est sûr et certain que c'est des désagréments. Mais il n'y a personne de blessé parce que Alex, moi.
Mais ça, c'est la bonne nouvelle, Mathieu. C'est la bonne nouvelle qu'il n'y ait personne de blessé. Puis tu veux savoir l'autre bonne nouvelle? C'est que tu restes à Toronto. Ben nous, ça nous donne plus d'occasions de te faire couvrir du baseball des Blue Jays pour que tu puisses nous en parler, Mathieu.
Oui, tout à fait. On revient dans le droit chemin, le domaine des sports. Et hier, j'ai assisté au match de baseball avec mes enfants puis avec ma blonde. Les Blue Jays contre les Orioles. Mais les Blue Jays, là, Alex, là. Ça va pas très bien. Et hier, j'ai regardé le rôle offensif des Blue Jays. D'ailleurs, les Blue Jays ont perdu 4-2 hier au grand désespoir de mon fils Jacob, qui était un peu déçu de ça, mais le rôle offensif des Blue Jays, ça fait un peu, c'est un peu particulier. Quand que ton quatrième frappeur est ton receveur Alejandro Kirk, qui était dans le temps, il frappait pas 8 ou 9e, puis là, cette année, il frappe 4e, tu fais, ben il y a quelque chose qui cloche. Beau Bichette, le fils de Dante Bichette, l'ancien joueur des Rockies, là, il frappe maintenant 7e. Mais là, l'année passée, Beau Bichette, c'était lui qui produisait tes points. Là, tu checkes les statistiques de Beau Bichette, ben là, ça va pas très bien. Il y a seulement une quarantaine de points produits. Okay. Il a passé 900. Moi, je pense qu'il y a eu... Des fois, il y a des mouvements de personnel ou des transactions qui font que ça explique beaucoup de choses. L'année passée, il y avait un gars qui avait un rôle majeur dans l'alignement. Qui s'appelle Marcus Semien. Marcus Semien, il est parti pour je pense, les Rangers du Texas. Il a signé un énorme contrat là-bas. Mais les Blue Jays, là, ils s'en rendent pas compte, mais c'était un gars très important parce que lui, son rôle, il frappait deuxième frappeur l'année passée. Mm. Ben, il protégeait tous les autres, les jeunes dans le rôle offensif. Et là, un gars comme Vladimir Guerrero, ben, il y avait des meilleurs lancers. Beau Bichette, il y avait des meilleurs lancers. George Springer, qui était le premier frappeur, aussi contribuait. Mais George Springer, c'est une très bonne signature pour les Blue Jays. Mais là, je suis en train de penser que c'est peut-être une mauvaise signature parce que George Springer, il est blessé souvent. Là, il est tellement blessé souvent qu'ils font même plus patrouiller le champ centre. Ils le mettent comme frappeur désigné. Alors, il y a beaucoup de problèmes dans le rôle offensif des Blue Jays, puis ils ont de la misère à produire des points. Hier, là, ça a été un circuit de deux points de Vladimir Guerrero, et ce fut la fin des émissions. Mmh. Ils n'ont pas rien produit de bon. Oui, ils ont eu un coup sûr ici et là, mais ils ne sont pas capables de générer de l'attaque. Alors que l'année passée, l'attaque, il y en avait en veux-tu en v'là, puis c'était au monticule qu'il y avait des problèmes. Et là, hier, c'était Alex Manoa là, au monticule, un très bon lanceur. Mais là, ils ont, tu sais, pas les Orioles, ils ont été vraiment plus opportunistes que les Blue Jays. Mmh. Les Orioles, cette année, ils surprennent parce que habituellement, on est habitué à, ils encaissent 100 défaites par année. C'est
vraiment un mauvais club d'habitude. Là.
Exactement. Et là, les Orioles de Baltimore, ben, crime, Alex, moi, ils m'ont impressionné hier parce que c'est pas, il y a pas de gros noms dans leur alignement. La seule affaire que tu sais, c'est que eux autres, ils jouent du baseball inspiré, ils jouent du baseball opportuniste. Hier, il y avait des coureurs en position de marquer le gros coucheur tout de suite, puis ils ont gagné le match.
Ouais.
Et c'est ça, l'opportunisme des Blue Jays, premièrement, il n'est pas là. Et au monticule, c'est moins pire pour les Blue Jays.
Mais ils ont quand même des problèmes, puis ils sont quand même. C'est quand même plate, là, parce qu'on dirait que leur saison était tellement bien commencée, puis Vladimir Guerrero Jr., c'est tellement un joueur qui est explosif, puis beau à voir aller, qu'on aurait pu croire que ça serait. Que ça brasserait un peu plus que ça. Je trouve ça un peu dommage. Hey Mathieu, je veux absolument que tu me parles. Hier, il y avait un événement qui revient à peu près toutes les années. Hein? C'est le tournoi de golf que l'ancien du Canadien, Serge Savard, reçoit. Toutes des légendes du CH qui viennent s'y joindre. Et hier, il y a eu plusieurs commentaires rapportés par la presse. Certains qui m'ont pas vraiment fait plaisir, Mathieu. Là. Je t'avoue, je suis un peu déprimé matin. Ça, là.
Mais
moi qui rêve à la coupe cette année.
Tu sais, un ancien du Canadien qui n'a pas la langue dans sa poche, il a vraiment critiqué, il a vraiment tiré à boulet rouge, là, un peu comme le défunt Guy Lafleur le faisait, sur l'organisation du Canadien. Là, l'année passée, le Canadien n'a pas de capitaine. Il avait tout à fait raison. Le Canadien aurait dû avoir un capitaine parce que chez Weber, il avait zéro chance de jouer. Il a tout à fait raison là-dessus. Deuxièmement, le Canadien ne fera pas une série l'année prochaine. Ben, ça, c'est un... Comment je pourrais dire ça? C'est une vérité de la palisse dans le sens que tout le monde le savait, tout le monde le sait que les Canadiens ne feraient pas essayer.
Wow, Mathieu, il y a certaines personnes qui croient encore au miracle du Canadien de Montréal ici présent.
Donc, c'est vrai, ça mettre 100$ dans la table pour dire
que peut-être 5$, plus que 5, peut-être un vieux 2 plus qu'un 100, je te dirais.
Ben, moi, je te dis, là, si le Canadien fait des séries, là, je te paye un lunch. Je te paye un lunch quelque part.
Okay? C'est bon.
Ça, là, hey, c'est enregistré. Ça, Alex, là, c'est enregistré, là. 9h25, on est 17 août 2022. Je promets à Alexandre Moranville Ouellet un lunch.
C'est noté.
Au Subway, peut-être.
OK. Un bon 12 pouces chez Subway si jamais ils font une série. Ouais. Mais regarde, Serge Savard, c'est ça, tu le dis. C'était pas. Il a dit une vérité là-dedans, mais ça va plus loin que ça. Là. Ça critiquait tellement de choses.
Il a critiqué de l'aide de Marc Bergevin. Moi, je trouve ça assez étrange parce que Serge Savard a aidé le Canadien à enrôler Marc Bergevin avec le Canadien. Il est un peu responsable de ce qu'est Marc Bergevin parce que c'est lui qui l'a mis là en place. Marc Bergevin, il n'a pas tout le temps pris des bonnes décisions. Il a pris des bonnes décisions. Il n'a pas même pris des mauvaises décisions. Puis là, dans le cas de Marc Bergevin, là, c'est facile de le sacrer en dessous l'autobus, l'équipe va pas bien. L'année passée, il faut comprendre que l'année passée, là, je pense que Bergevin, il sentait peut-être pas la soupe chaude, mais il a vraiment mis ses jetons au centre de la table. Il s'est mis en ligne pour que le Canadien gagne la Coupe Stanley. Il est passé à trois victoires d'une conquête de la Coupe Stanley. Et là, il a échoué, mais il avait vraiment tout mis les pièces en place. Weber, il roulait, il patinait sur une jambe. Carey Price, je sais pas s'il était apte entre les deux oreilles, si ça allait bien. Tu vois, là, il y avait beaucoup de facteurs, beaucoup de choses. Ils étaient tous réunis pour dire OK, ils vont faire une run à Corey Perry, là, le tenace et coriace attaquant du Canadien dans le temps. Tout était réuni. Mais Marc Bergevin, malheureusement, le Canadien a affronté une formation tout simplement trop forte pour lui, soit le Lightning de Tampa Bay. Le Lightning de Tampa Bay, ben, Vasilevski arrêtait la rondelle accident. Kucherov avec Palat puis Oui. Puis Stamkos.
C'était trop dur. C'était trop dur, mais de critiquer seulement Marc Bergevin là-dessus, on en convient.
Ah, ouais. Moi, je trouve ça un petit peu injuste pour Marc Bergevin parce que c'est facile de critiquer. Moi, il y en a un là, qui, je trouve que souvent, il évite les critiques comme une couleuvre un peu dans un champ. Là. C'est Trevor Timmons. Timmons, là, son bilan de repêchage, je veux bien croire que les autres équipes aussi, ça l'arrive, qui ont des mauvais choix de repêchage, tout ça. Mais là, c'est assez spectaculaire. Le seul choix de premier round du Canadien qui est avec l'équipe présentement, t'as Cole Caulfield. Là, tu fais OK, mais là, les autres choix de premier round dans les 10 dernières années, là, plus de son, plus d'image, là, on les voit plus, là. Ils sont
faits des Canadiens. C'est vraiment Trevor Timmons qui s'en sort bien, t'as raison, Mathieu.
Dans l'air du plafond salarial, Alexandre, là. Les choix de repêchage sont tellement importants que tu peux pas en gaspiller un. Tu peux pas dire, hey, lui, là, je vais le drafter juste parce que je le vois peut-être un potentiel, puis un à peu près. Tu peux pas faire ça dans l'initiative de hockey d'aujourd'hui. Tu cours à ta perte. Et là, le Canadien, ben là, il se rend compte que, hey, tu sais, il y avait une année, là, on avait repêché Pacioretty puis Subban. Piqué, il a signé un gros contrat, il a été échangé. Après ça, t'as Max Pacioretty qui a été échangé à Las Vegas parce que là, il s'entendait plus bien avec Bergevin et l'entraîneur-chef Claude Julien, je crois, à l'époque. Fait que, tu sais, il y a des circonstances. Le sport professionnel, c'est toujours en mouvance. Mais si tu échanges un gros nom, un joueur d'importance, ben il faut que tu le remplaces. Arturi Lehkonen, là, ça a l'air niaiseux, là, il est échangé à Colorado. Il n'y a personne qui a pris son rôle après. Fait que c'est un peu ça. C'est que quand tu échanges un joueur, faut que tu sois en mesure de le remplacer à l'interne. Ouais. Et ça, pour le moment, depuis un an, l'année passée, on l'a vu que les gars qui sont partis, ils n'ont jamais été remplacés.
Non, mais alors, c'est sûr, ça va être un long processus quand même. Mathieu, on n'est pas... c'est ça aussi le message qu'on a entendu hier au club de golf. C'est pas demain la veille que le Canadien va être en grande forme, remis sur pied, même si certaines personnes, ne les nommons pas, ont le droit encore d'espérer. Mathieu, on poursuivra notre discussion là-dessus demain matin. Salut!
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Alexandre Morin-Ville-Ouellette. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets.
Cube Radio.
Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
Rémi, Julia, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Écoutez, ce matin, c'est sorti là, d'abord aux côtés de Radio-Canada, maintenant chez nos collègues de Québécois, des entreprises, une liste qui a été dévoilée, obtenue auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Hein? Oui, je le répète parce que ce deuxième segment-là, au nom du ministère de l'Environnement, pour ceux qui l'ignorent, ça a pas l'air de paraître ben quand on apprend qu'il y a 89 entreprises qui ont des ententes ici au Québec avec le gouvernement pour déroger à la législation qui est en vigueur pour la qualité de l'air, et tout ça en toute légalité, mesdames et messieurs. Toute légalité, à part pour l'arsenic dans l'air, hein, ça on l'a vu du côté de la fonderie Horn, où il y a une capacité maximale qui est absolument énorme, hein, absolument énorme. C'est 33 fois la norme québécoise qui est permise, règle générale. Ben, tous les autres polluants contaminants dans l'air, ben, c'est un passe-droit complet qui est donné aux entreprises qui sont assujetties à cette espèce de clause grand-père-là. Est-ce qu'on peut être le ministère de la lutte au changement climatique puis quand même donner des autorisations comme ça, des passe-droits à certaines entreprises majeures, Julia?
Mon Dieu, c'est évidemment que non. Que le gouvernement mette des plafonds environnementaux aux entreprises, c'est juste la base, là. On est dans une crise climatique, je le rappelle, la planète est en feu, catastrophe climatique tout autour du globe, ça va très mal. Donc, mon Dieu, bien sûr que les entreprises doivent avoir des limites en ce qui concerne leur, comment dire, leur contribution au dépérissement de la planète. Mais là, on apprend qu'il y a une entente réservée aux entreprises qui existait avant le nouveau règlement contre la pollution, qui leur permet, comme tu dis, d'avoir presque aucun plafond à respecter pour les rejets de contaminants dans l'air. Les mots me manquent, là. On parle bien ici de contamination de l'air, danger pour la santé des êtres humains, danger pour la planète. Et pourquoi, soyons très honnêtes, pour que ces entreprises-là puissent continuer à faire du profit? Encore la faute de notre vieil ami, le capitalisme. Et j'essaie vraiment fort de ne pas être pessimiste en ce qui concerne la capacité de nos gouvernements à adresser la crise climatique. Mais il me donne rarement des raisons d'être optimiste. Et depuis le début de son mandat, Legault traite l'environnement un peu comme un sujet parmi tant d'autres qu'il faut conjuguer avec un besoin de croissance économique. Tant qu'on a cette approche-là, on va contribuer au problème. Point à la ligne.
Rémi?
Ben, moi, je suis d'accord avec Julia. Je voudrais juste préciser que sur les 89 entreprises, il y en a 13 qui sont plus en activité. Donc, en fait, on descend à 76, mais bon,
c'est important de le mentionner.
Ça demeure quand même une horreur, là, ce décompte-là. Je pense que quand on veut parler d'environnement, il faut sortir de la logique entreprises qui font du profit. Les humains demandent des produits et les entreprises répondent à la demande. Donc, c'est exactement ça. Moi, quand j'ai vu passer le scandale de la fonderie Horn, c'est sûr que c'était plus facile au début de dire bah, « quelle espèce d'entreprise sale qui vient de l'étranger, qui vient polluer notre air ». Oui, mais elle produit des produits que nous demandons. Donc, en fait, il faut réfléchir à la croissance, à la productivité. Il faut réduire la demande et l'offre va être réduite du même coup. Il faut aussi parler, je pense, des emplois. T'sais, il faut réinventer le secteur de l'emploi parce que dans une place comme à Rouyn-Noranda, là, la fonderie Horn, c'est 650 emplois à 106 000 $ par année. Donc, je veux dire, ça fait vivre une bonne partie de la communauté. Et ça doit être la même chose pour beaucoup de ces usines-là qui évoluent dans des places comme Sherbrooke, des petites villes comme ça en dehors de Montréal. Donc, il faut réinventer ça parce que moi, je me sens très mal ce matin de taper sur la table, moi qui vis dans l'univers des arts et lettres, et de dire à ces gens-là, ben, vous devriez perdre vos jobs, vous devriez vous réinventer, vous êtes petit, allez embrasser le changement. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais évidemment, il faut arrêter de polluer de cette façon-là. Là. Surtout l'arsenic, c'est quand même un produit, ça m'étonne encore que ça soit dans l'air, cette affaire-là.
Ouais, mais j'ai tendance à être d'accord. C'est sûr que le problème est toujours plus complexe là, que ce qu'il y paraît. Puis les emplois sont importants. Il y a des entreprises là-dedans qui sont, en plus, là, tu sais, intrinsèquement québécoises. Là. Je pense à Rio Tinto, entre autres. Mais au-delà de ça, c'est que ces renouvellements-là se font à tous les 5 ans et sont censés, selon le ministère de l'Environnement, visser un peu, serrer la vis à chaque 5 ans, justement là-dessus. Le problème, c'est qu'il y a un manque de transparence absolue sur c'est quoi les réglementations qui se font là-dessus, c'est de combien on rétrécit ces polluants-là dans l'air à chaque renouvellement pour chaque entreprise. C'est difficile à l'extrême de le savoir. Puis surtout, à chaque 5 ans, ça me semble que c'est énorme sur une perspective de changement climatique maintenant 5 ans. Il me semble que c'est énorme en termes de santé publique quand on voit ce qui se passait à Rouyn-Noranda avec la fonderie Horn. 5 ans d'arsenic, de polluants, de contaminants dans l'air pour les populations, des gens qui ont des cancers à un niveau alarmant. Il me semble que c'est énorme 5 ans, Julia.
C'est assez fou. Je veux dire, je suis un peu tannée d'être déçue parce que j'aimerais ça être optimiste puis me dire... Les gens qui sont au pouvoir veulent vraiment qu'il y ait du changement. Ils sont là pour les bonnes raisons. Ils ont les priorités à la bonne place. Mais la réalité, c'est qu'ils se battent contre tout un système en place depuis très longtemps qui veut de la croissance, toujours plus de croissance. Et évidemment, il y a les enjeux d'emploi, il y a les enjeux économiques. Donc, il y a toujours tout ça qui rentre en ligne de compte et qui fait qu'on a un peu de difficulté à mettre nos priorités à la bonne place et de réaliser que le problème le plus gros, et je veux dire, un problème existentiel, c'est la crise climatique. C'est tout, là. Sauf que, bon, on essaye de vivre dans le moment présent et on voit qu'il y a des gens qui doivent survivre. Moi, je voudrais pas être au gouvernement, je tiens à le préciser, parce que c'est des décisions très compliquées à prendre, mais il faut quand même avoir le sens des priorités.
Penses-tu, Rémi, qu'il y aurait moyen, au Québec, de se positionner comme un phare là-dedans, tu sais, de dire oui, OK, on va vous compenser les entreprises, mais faut que nos restrictions soient toutes suivies à la lettre. Elles vont être exigeantes, oui, mais en contrepartie, si vous venez vous installer au Québec, vous avez cette espèce de saut-là où vous êtes une entreprise plus propre parce que vous êtes ici. Y aurait-tu moyen, par exemple, d'y aller avec cette option-là?
Ben, possiblement. Puis, je pense qu'elle est là, la solution, parce que le jour où il va y avoir 650 emplois autour de l'énergie verte à Rouyn-Noranda, ben, l'entreprise de la Fonderie Horn va avoir le moins gros, le plus petit morceau du bâton dans la guerre de chantage avec le gouvernement du Québec. Et à ce moment-là, le gouvernement du Québec va dire « Vous réduisez pratiquement toutes vos émissions d'arsenic, vous dégagez. » Parce que la Fonderie Horn, en ce moment, elle le sait qu'il y a 650 emplois qui dépendent de elle. Mais le jour où on va développer les énergies vertes, ben, ces entreprises-là vont partir, vont aller polluer ailleurs, puis le Québec va être ce fort dont tu parles.
Autre dossier que je vais aborder avec vous, parce qu'il y a un flou qui persiste en ce moment, c'est sur le bilinguisme pour les Autochtones. On rappellera, là, dimanche, c'était rapporté par la presse canadienne, il y a des hauts fonctionnaires qui envisagent d'offrir des exemptions pour les postes où le bilinguisme est obligatoire. S'il y a des candidats qui parlent une langue autochtone puis qui ont une connaissance dite suffisante d'une des deux langues officielles, ça reste flou. On ne veut pas vraiment répondre à la question du côté des officiels à Ottawa. Évidemment, du côté du Bloc, on dit que c'est une idée complètement à écarter, sinon ça pourrait nuire à la langue française. Est-ce que ça pourrait vraiment nuire à la langue française, Rémi?
Absolument. Absolument. Moi, je ne vous cacherai pas que quand je vois des nouvelles comme ça sortir, non seulement je suis tout sauf surpris, parce que je connais quand même bien l'histoire du Canada, mais je suis heureux, en fait. Je suis heureux parce que des affronts comme celui-là, ça parvient généralement à convaincre encore un peu plus de monde que les francophones n'ont aucun avenir heureux dans ce pays-là, qui les méprise depuis 1867. Moi, ça fait longtemps que j'ai abandonné l'espoir que l'état du français s'améliore au Canada, parce que, n'en déplaise à Jésus, tendre l'autre joue, c'est pas exactement mon truc. Dans le cas très précis là, dont on parle ce matin, je pense que c'est quand même un exploit de la part du Canada de nous mépriser de deux façons. En fait, vous avez d'une part les hauts fonctionnaires qui se foutent complètement des rapports du commissaire aux langues officielles, des rapports qui sont à chaque année de plus en plus accablants en matière de respect de la langue française. Puis en plus, vous avez des hauts fonctionnaires qui font semblant de ne pas savoir que la majorité des Autochtones qui parlent deux langues, dont la première est une langue autochtone, parlent en fait l'anglais. Donc en fait, d'un point de vue statistique, c'est incontestable qu'il y aura simplement de plus en plus de fonctionnaires qui ne parlent pas le français si le pays va de l'avant avec ça. Le double mépris, à mon avis, repose sur la réaction d'Ottawa, dont tu viens de parler. Elle est absolument ahurissante. Je veux dire, on est vague, on condamne pas l'initiative des hauts fonctionnaires et on reconnaît même que le Conseil du Trésor a amorcé déjà un exercice visant à élaborer des politiques qui vont s'attaquer aux obstacles linguistiques à l'emploi des Autochtones. Bref, l'érosion du français dans la fonction publique est bien amorcée. Donc, et là, il y a une chose aussi que j'aimerais mentionner, c'est qu'il faut quand même le noter, là, la loi sur les langues officielles, c'est une langue, c'est une loi. Et le Canada, qui est un état de droit, bafoue cette loi-là. Donc, c'est quand même incroyable. On fait la leçon à l'échelle internationale, mais on bafoue nous-mêmes, comme pays, une loi qu'on a nous-mêmes votée.
Je dirais, est-ce qu'il y aurait moyen d'avantager les emplois autochtones, d'attirer de plus en plus de gens qui parlent des langues autochtones au gouvernement sans devoir nuire comme ça, comme le dit Rémi, du moins, aux Français?
Mais moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce paradigme. Mario Beaulieu, porte-parole du Bloc en matière de langues officielles, a dit « Pas question de tasser le français au profit des langues autochtones. » Autant vous dire que je suis tombée de ma chaise, vraiment tombée de ma chaise. Les relents du colonialisme sont clairs comme de l'eau de roche. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle le français devrait primer sur les langues autochtones? Je serais très curieuse de savoir.
C'est une langue officielle.
Oui, mais pourquoi cette loi-là est une loi colonialiste qui naît du fait qu'on a volontairement effacé les cultures autochtones? Et ensuite, le Canada anglais, qui a été un colonisateur envers le Canada français, ça, on peut tout à fait le comprendre, mais on peut pas comprendre que le Canada français a lui-même été colonisateur à son tour. Si on prend un pas de recul et qu'on oublie un moment qu'on est nous-mêmes des francophones québécois et qu'on tient très fort à notre langue, il n'y a aucune raison de supposer que les francophones devraient avoir préséance sur les autochtones. La seule raison pour laquelle ils ont moins de pouvoir que nous aujourd'hui, c'est parce que leurs langues ne sont pas protégées par la loi et c'est parce qu'ils ont été victimes d'un colonialisme violent. On est tellement habitué de concevoir le Canada dans cette logique d'affrontement entre le Québec et tout le reste qu'on a complètement oublié les autochtones et ça, en soi, ça constitue une énième violence coloniale.
il y aurait, moi c'est moi mon interrogation, puis Rémi, je veux te relancer, te laisser la parole là-dessus, mais il y aurait pas moyen de concilier les deux? Est-ce qu'il y a pas moyen justement de d'augmenter le taux de langue autochtone, de français, peut-être en nuisant l'anglais, là, tant qu'à faire, honnêtement, là, je vais le dire haut et fort, là, au pire, il y aura moins de gens qui parlent anglais au gouvernement, c'est pas un drame. Il n'y a pas moyen d'aider les deux, d'avantager les deux?
Ben, je vois pas vraiment comment, en fait, mais si tu viens de proposer quelque chose d'assez intéressant, si vous voulez réduire la proportion de fonctionnaires anglophones au Canada, c'est peut-être une bonne chose. Ça va rétablir un équilibre de façon plus importante, mais comment vous allez parvenir à faire ça? On peut aussi décider que les langues autochtones sont des langues officielles, sauf que même Justin Trudeau, qui est quand même un des premiers ministres les plus ouverts aux communautés autochtones à avoir pris le pouvoir depuis quelques années, lui-même, il dit que c'est pas vraiment possible. Je veux dire, il faut imaginer ce que ça représente, là. Faut instituer les langues autochtones aussi, parce qu'il y en a plusieurs, dans toutes les institutions, il faut imprimer de l'argent avec la langue autochtone, c'est très compliqué. Donc, moi, j'ai pas envie de me battre, en fait, honnêtement, pour la place du français dans le Canada. Vous connaissez mes positions là-dessus. Moi, je pense que le Québec doit devenir un pays, puis on doit sortir de cette espèce de combat qui est perdu d'avance. Mais c'est évident que, malheureusement, Julia, le colonialisme a eu lieu. Mais là, aujourd'hui, on est en 2022, le français est une langue officielle, les langues autochtones n'en sont pas. Donc, je pense que le français doit être défendu par le Bloc,
Puis, d'un autre côté, ben, les tendances semblent te donner raison, du moins en partie. Hein, il y a un recensement qui est paru ce matin, Statistique Canada, qui publiait les données de son recensement de 2021. Et le français est la langue officielle parlée d'un nombre croissant de Canadiens, mais en proportion dans le Canada, ça diminue 22%. Passé à 21,4% de proportion de gens qui ont le français comme langue officielle dans le Canada. Donc, même si le nombre absolu augmente, la proportion diminue. Je pense qu'on n'en a pas fini avec ce débat-là. Rémi, Julia, on aurait pu faire une émission complète là-dessus, mais merci d'avoir été là. On poursuivra nos discussions demain.
Alexandre Moranville-Ouellet. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, tout en débattant des enjeux de société.
Un autre sujet qui me rend extrêmement cynique et qui a l'air de revenir absolument constamment dans l'actualité. Devinez quoi? Il y a des chantiers au Québec, les coûts augmentent, les délais aussi, et on ne sait jamais quand est-ce que ça va finir par être construit, ni combien ça va coûter. Cette fois-ci, c'est encore un des domaines qui nécessite le plus d'argent, le plus de temps à rénover, le milieu de la santé. Pour tenter de me sortir de mon cynisme ou peut-être m'y enfoncer, Maude Laberge, professeure en économie de la santé à l'Université Laval et chercheuse en santé des populations et pratiques optimales en santé. Bonjour, Madame Laberge.
Bonjour.
Tout d'abord, vous qui connaissez mieux que moi là, le système de santé, est-ce que ce qu'on raconte, là, l'état de décrépitude dans le réseau, est aussi intense que ce qu'on décrit, que ce qu'on rapporte, Mme Laberge?
Mais je pense que ça reflète en partie le fait qu'on a tendance à pas s'occuper suffisamment de nos infrastructures au Québec, puis c'est pas spécifique au milieu de la santé, au milieu hospitalier, dans le sens où on le sait aussi sur l'état de nos viaducs, etc. Donc, les infrastructures ont besoin de maintenance, de rénovation, de réparation. Puis, c'est comme quelque chose qu'on remet beaucoup à plus tard dans les investissements qu'on fait. Le problème avec ça, c'est quand on remet à plus tard, c'est que ça va nous coûter plus cher plus tard aussi.
Oui, parce qu'il y a des facteurs qui viennent quand même entrer en ligne de compte quand on remet ça à plus tard. Là, on l'a vu, l'inflation, pénurie de main d'œuvre, coût de matériaux, ça vient augmenter quand on repousse à plus tard. Surtout au niveau des soins qui sont donnés, quand on remet à plus tard, ça peut avoir quel impact sur les patients?
Mais en fait, c'est que d'une part, on a des besoins grandissants en santé, donc on a besoin d'ajouter des ressources. Puis d'ajouter des ressources, c'est pas, on a parlé énormément des ressources humaines dans les derniers mois, en particulier avec la pandémie, mais on a aussi besoin des ressources au niveau des infrastructures, c'est-à-dire l'espace pour traiter des patients, des chambres, des lits, puis l'autre élément aussi, c'est que les normes au niveau sécurité pour assurer une sécurité des soins évolue, puis assurer quand je pense à la ventilation, etc. Donc les appareils qu'on utilise il y a une évolution technologique dans le milieu des soins de santé qui est encore plus importante que dans d'autres secteurs et qui peuvent requérir donc des modifications assez majeures. Mais après, il y a des choses de base comme les fuites d'eau qui ont affecté plusieurs hôpitaux aussi. Puis là, c'est l'annulation de chirurgie, l'annulation de le report d'intervention. Puis le fait que faire des travaux en urgence, ça coûte toujours plus cher aussi.
Ça coûte toujours plus cher. Vous faites bien de le dire, hein, parce que les normes juste de salubrité doivent être différentes dans ces bâtiments-là. À ce moment-là, comment vous expliquez qu'on repousse constamment les délais, qu'on remet tout le temps tout ça à plus tard, sachant, comme on vient de l'exposer ensemble, que un, ça va coûter plus cher, deux, ça peut mettre plus on attend, plus les technologies changent, plus les normes changent, plus ça coûte encore plus cher. Pourquoi on remet ça tout le temps demain, dans ce cas-ci, selon vous, Maud de la Berge?
Je pense que c'est une question de priorisation par rapport à la rénovation d'infrastructures puis par rapport à la mise en chantier de nouvelles infrastructures dans le milieu de la santé. Donc, on sait qu'il y a une vétusté de nos infrastructures à beaucoup d'endroits, mais que c'est comme si tant qu'il n'y avait pas cette urgence-là, on voit pas un besoin, on voit pas un impact immédiat donc de la nécessité de refaire quelque chose. Tant qu'on n'a pas des fuites d'eau, mais on se dit que notre tuyauterie a tient le coup. Mais par contre, on est dans des milieux où la salubrité est tellement importante que ça peut avoir des effets quand même assez importants sur la qualité de l'air ou sur les soins, sur la sécurité des patients, puis aussi dans une certaine mesure aussi des employés qui travaillent là, donc s'il y a des infestations, etc., d'animaux, de fourmis qui pourraient affecter ou requérir la fermeture de certaines unités temporairement, bien c'est sûr que ça va affecter l'accès aux soins aux patients aussi, mais comme j'ai dit, c'est comme rénover ou refaire c'est de la prévention finalement de ce genre d'incident-là. Puis la prévention, on a tendance à la délaisser beaucoup au profit de faire ce qui est urgent, ce qu'on a besoin de faire tout de suite.
Oui, pendant ce temps-là, vous faites bien, là, vous dites fourmis, animaux, mais on a vu des infestations d'araignées, des chauves-souris dans des plafonds d'hôpitaux, des situations qui peuvent sembler complètement inacceptables. Vous, quand vous voyez des éléments comme ça, là, cette nouvelle-là encore, recensement, explosion de coûts, explosion de délais, est-ce que ça, vous croyez que ça mine la confiance des Québécois encore plus en le système de santé puis en nos institutions?
Mais je pense pas que c'est une question de, je veux dire, les institutions ont une responsabilité d'allouer des ressources, puis on sait que c'est il y a de la compétition pour les ressources, puis la façon de les allouer, il y a une infinité d'options de façon d'allouer les ressources, je pense que c'est des choix qui sont difficiles à faire parfois entre allouer à des ressources pour des nouveaux médicaments pour des traitements de cancer versus refaire une infrastructure versus. Donc je pense que c'est des difficultés d'allouer, c'est les défis que représente l'allocation des ressources qui font que les projets de construction sont peut-être remis à plus tard parce qu'on a l'impression que d'autres choses sont plus importantes au niveau de l'allocation des ressources.
On répare les fuites qui ont l'air les plus importantes en premier dans le bateau, même s'il prend l'eau d'un peu partout. C'est ce que je comprends.
Exactement, c'est ça. Donc, puis il y a d'autres aussi enjeux que celle du système de santé quand on parle des infrastructures au Québec. Là, donc il y a des priorités aussi au niveau construction ailleurs dans pour la société.
Ouais, bon, ben disons que le bateau va continuer à prendre de l'eau encore longtemps, si on en croit là, la dernière recension de nos collègues du journal. Maud de la Berge, mon cynisme n'est pas dissipé, mais je vous remercie tout de même d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes professeure en économie de la santé à l'Université Laval, chercheuse en santé des populations et pratique optimale en santé. Merci beaucoup.
Ça me fait plaisir. Au revoir.
Au revoir. C'était tout pour notre émission. D'autres beaux sujets qui me rendent absolument cynique. J'espère quand même que ça vous a informé, gardé diverti, même si vous avez ri un peu des mésaventures de Mathieu Boulay aujourd'hui. C'est méchant de faire ça. C'est quand même un peu rigolo. Merci à toute l'équipe qui était là, Jean-François Roy, Marianne Bessette à la recherche. On se reparle demain. Je vous laisse avec Alexandre Dubé.
Cube Radio.